Chers amis de Radio Galère, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir tous les mardis, de 18h à 19h, dans l'agora de l'Université Populaire de Marseille Métropole, sur la bande FM 88.4, sur le canal 8C de la radio numérique terrestre et en diffusion Internet. L'agora vous propose des régalades, des pépites, des projets, des initiatives de la recherche, de la créativité, de la cité. Et je suis très très content de recevoir dans cette émission un diamant, une perle et puis une émeraude. Alors je ne sais pas, choisissez ce qui vous plaît, ce qui correspond à votre voix peut-être, mais aussi à ce à quoi vous aimeriez ressembler. Le calme, vous l'indiquiez, a été créé à la suite des événements de la rue d'Aubagne, des effondrements de cet immeuble. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie, en tous les cas, qu'est-ce qui a donné envie à autant de talents de se rassembler pour participer à la solidarité à ce moment-là?
Ça a été un drame à Marseille, ça a été un drame terrible qui a ébranlé quand même beaucoup les Marseillais. Il y a eu 8 morts, ce qui est terrible. Et puis derrière, non seulement ce drame humain, il y a eu un autre drame humain et social qui a été le fait que des milliers de personnes ont été délogées du jour au lendemain de leurs appartements, de leurs maisons, avec des arrêtés de péril dans de très très nombreux immeubles. Les gens contraints de partir du jour au lendemain en laissant leurs affaires, en allant dans des hôtels, ne sachant pas quand est-ce qu'ils pourraient rentrer chez eux. Donc il y a eu à Marseille vraiment, à un moment donné, une grande vague de solidarité entre personnes. Et on est artiste, mais on est aussi citoyen, et par notre art, on pouvait justement mettre notre art au service de cet engagement citoyen, au service de cette solidarité citoyenne. Et c'est ainsi qu'avec donc Luca Lombardo, qui est un grand ténor et marseillais et un ami, nous sommes allés voir Richard Martin au théâtre Tourski, avec qui nous avions fait justement une Carmen 2 ou 3 ans auparavant, et nous lui avons présenté cette envie que nous avions de réunir des artistes lyriques pour organiser un concert caritatif pour aider les personnes sinistrées. Et Richard nous a évidemment ouvert les portes de son théâtre, et c'est comme ça que le 22 janvier 2019, nous avons fait ce premier grand concert qui a réuni environ une centaine d'artistes de la région marseillaise. Voilà. Et de ce concert-là est partie cette idée que la culture pouvait continuer à se fédérer au service de cause, au service de lutte, de façon à mettre en lumière, puisque ce que la culture a et apporte, c'est de la lumière, puisque nous, artistes, nous sommes sur scène, nous avons des projecteurs braqués sur nous, et cette lumière, il suffit simplement de l'utiliser pour la décaler grâce à notre art, grâce à la culture, vers finalement des choses qui sont un peu plus dans l'ombre, dont on parle moins, puisque finalement c'est un peu moins médiatique de parler de certaines luttes, de certaines causes. Et puis donc c'est la culture finalement qui va faire la lumière. Et on s'est dit, fédérons un collectif d'artistes pour mettre en lumière ces luttes sociales. Voilà. Au début, l'idée était de recréer chaque année ce grand concert qui est donc devenu le concert des voix solidaires, qui réunit tous les artistes. Et puis derrière, moi, j'ai eu cette réflexion de me dire, il faut lui donner à ce mouvement, il faut lui donner une contenance plus fréquente. Et c'est ainsi que j'ai voulu créer la saison solidaire. La saison solidaire, c'est tous les mois un concert caritatif en petite forme de 3, 2, 4 artistes pour mettre en lumière une association et une lutte sociale. Et nous reversons évidemment la totalité de la recette à l'association. Et donc chaque mois, sur 10 mois, nous chantons pour des différentes associations et différentes luttes sociales. Et au cœur de cette grande saison, elle vient de se terminer aujourd'hui avec ce grand concert des voix solidaires qui est la réunion de tous les artistes du CALM, c'est tous les artistes qui veulent être solidaires pour une grande lutte que les artistes choisissent collectivement lors de notre Assemblée Générale. Cette année, ça sera les violences faites aux femmes. L'année dernière, c'était les violences et maltraitances faites aux enfants. Voilà. Et puis donc, Béatrice comme Rémi font partie de cette saison solidaire. Rémi va chanter prochainement, le 11 octobre, pour l'association, le Centre Ressources, qui vient en aide aux personnes malades du cancer, qui, rappelons-nous, rappelons-le, est la première cause quand même de mortalité chez les hommes et la deuxième cause de mortalité chez les femmes. Et 1000 personnes apprennent tous les jours qu'elles sont malades du cancer. Donc, c'est vraiment un grand, c'est un fléau. Et en ce mois, justement, nous sommes le 1er octobre aujourd'hui, en ce mois de la lutte contre le cancer, nous voulions aider cette association. Et Béatrice viendra également en décembre à l'Opéra de Marseille pour chanter avec Amélie Robbins et Laurie Garcia, accompagnée de l'orchestre du Conservatoire de Marseille, pour la Croix-Rouge et pour les personnes qui sont sans domicile fixe et que la Croix-Rouge aide tout le long de l'année. Donc voilà, chaque mois, une lutte sociale et une association qui reçoit la totalité de la recette grâce justement aux dons que les artistes font en mettant leur talent au service de cet engagement citoyen et par la culture.
Je veux bien être votre porte-parole auprès de Sophie Camard et vous permettre de chanter au Théâtre Sylvain, bien sûr lorsqu'il fera meilleur, parce qu'en ce moment il fait un peu froid, mais peut-être qu'au printemps ou en début d'été, ça pourrait être un beau lieu qui est un lieu chargé d'histoire et qui est aussi un endroit où on peut donner des spectacles de grande qualité. Mais bon, nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais à propos de des difficultés que vous citiez, le Secours populaire a lancé un sondage auprès de l'Ipsos et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens et de plus en plus jeunes, à partir de 60 ans, donc lorsqu'il reste encore un quart de la vie, qui tombent dans la précarité et dans l'extrême misère. Et cette épidémie de Covid a permis de montrer combien les citoyens sont capables de s'organiser en collectif, donc vous l'avez fait vous, mais il y a eu aussi dans les quartiers les plus populaires des collectifs qui se sont réunis pour rassembler de l'argent, pour acheter de la nourriture, des produits sanitaires et surtout pour en organiser la distribution. Il y a un lieu qui est toujours très actif, qui est l'ancien restaurant McDonald's de Saint-Barthélemy, qui continue à servir, à distribuer des paniers solidaires tous les jours, ce qui est complètement indispensable. Vous nous avez parlé de vos prochaines ambitions. Il y a la place de la culture, vous l'avez évoqué. Il y a ce week-end, vendredi et samedi, au Théâtre du Gymnase, une pièce qui est intitulée « L'homme qui tua Muammar Kadhafi » et qui est en fait un spectacle documentaire qui tente de lever le voile sur les commanditaires de l'exécution du dictateur libyen en 2011, alors que plane encore l'ombre du plus petit président de la République, dont le procès doit recommencer dans pas très longtemps. Mais quelle est cette place? Vous essayez de donner de la beauté, de la joie, de l'allégresse, mais quel est aussi votre engagement au travers de ce que vous chantez? Comment vous pouvez porter aussi cet éclairage qui est souvent et trop souvent brouillé par les médias, qu'ils soient écrits, radiophoniques ou télévisés? Mais là, vous ne laissez pas la parole à Michael parce qu'il a tendance à s'en accaparer.
Mais il parle très bien, donc on peut lui laisser la parole.
Ah, vous l'aimez beaucoup.
Oui, j'aime beaucoup Michael, oui, ça c'est sûr.
C'est bien de le dire.
Rémi.
C'est pas une question évidente. C'est vrai que, alors si j'ai bien compris, comment remettre
Comment votre art peut être un outil de communication et d'éclairage citoyen.
Alors, c'est vrai que par rapport à l'art lyrique, qui s'est quand même un peu éloigné, en tout cas dans l'imaginaire collectif des gens, j'allais dire des préoccupations populaires ou parce que c'est considéré encore aujourd'hui à juste et à mauvais titre, ça c'est à nous tous d'en juger, mais qui est considéré encore comme un art élitiste. Je pense que ce genre de d'initiative qui a permis le CALM, c'est nickel notamment, de rassembler des artistes pour des causes qui nous rapprochent vraiment du terrain, c'est salvateur parce que ça nous permet à nous aussi de reconsidérer que notre art finalement est d'essence même populaire. C'est l'art lyrique, c'est un art premier, c'est l'art du chant, c'est tout le monde chante dans tous les peuples du monde, les personnes chantent, les personnes ont envie de danser et je trouve que l'art lyrique, en tout cas l'opéra, permet aussi d'allier les deux. Et le message que l'on passe à travers les textes d'opéra, qui sont souvent des personnes qui sont emprunts à, comment dire, à des troubles, des troubles qui sont empreints d'une tristesse profonde aussi, qui sont un petit peu torturées, hein. Elles ont, comment dire, ça fonctionne comme une sorte de catharsis.
Catharsis, oui, c'est clair. Voilà. C'était le but premier, hein, même. C'était, on peut remonter à l'antiquité grecque. C'était tout à fait ça, oui.
Tout à fait. Et je trouve donc du coup que de réutiliser cet art au profit des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller voir de l'art lyrique ou d'aller voir des opéras, c'est quasiment un combat politique. C'est comme cette histoire de, enfin, comment dire, l'organisation de l'opéra déconfiné pendant après le confinement, justement, qui a permis à des chanteurs de la région d'aller chanter dans les quartiers un petit peu défavorisés d'Aix-en-Provence. Et cela montre que les personnes sont avides aussi de ce genre d'initiative et qui sont tout à fait prêts à écouter l'opéra hors les murs. Et c'est tout à fait plaisant pour tout le monde.
Vous connaissez certainement Marianne Sunner, qui est aussi une artiste musicienne et qui, depuis longtemps, mène des activités à la Busserine, dont dans les quartiers nord de Marseille, et a fait créer des opéras par les jeunes de la Busserine. Donc, ces gens-là ont été amenés à la fois à écrire les textes, mais aussi à imaginer les décors, les costumes, et à mettre en scène et à jouer ces opéras qu'ils ont imaginés. Je trouve que c'est vraiment une belle démarche que vous portez en allant au plus près de ceux qui n'osent pas, parce qu'en fait, ce sont ces freins qui sont dans l'inconscient ou dans le conscient des gens qui n'osent pas, qui ne s'autorisent pas à pousser la porte pour aller voir une pièce de théâtre, pour aller entendre un opéra ou pour aller entendre un concert, mais tout comme ils ne vont pas dans les musées ou visiter des expositions. Bon, je crois que nous avons tous un travail important d'éducation mieux de déséducation, parce qu'en fait, on a mis dans la tête de ces gens-là que ça n'était pas leur place.
Oui, ça c'est vrai, mais ça c'est une vraie bataille. Moi, c'est quelque chose que je trouve un peu fou, parce que je pense qu'effectivement, il y a, comme si les gens étaient complexés, mais il y a encore 50 ans, les gens, il y avait moins la télé. Donc, on va à ce qu'il y a le plus, ce qui est le plus accessible, ce qui est le plus facile à consommer tout de suite, c'est-à-dire la télé, c'est-à-dire Internet. Avant, je pense qu'effectivement, les gens s'opposaient beaucoup moins à la question de savoir si c'était de leur milieu, si c'était élitiste ou pas. Ils y allaient à l'opéra, ils y allaient très facilement. Et aujourd'hui, les gens se sont compliqués les choses dans leur...
C'est parti.
Voilà.
Donc oui, je ne sais plus ce qu'on disait.
Il y a 50 ans, qu'il y a les gens allaient à l'opéra.
Oui, ils y allaient plus facilement. Je crois que les gens, curieusement, nous sortent deux arguments qui pour moi ne sont pas du tout les bons, qui sont le prix. Alors ça, c'est complètement faux parce que quand on voit
les
gens...
15 euros poulailler, c'est accessible.
Exactement, et même 50 euros. Les gens n'hésitent pas à aller dépenser 600 euros pour Madonna en achetant des places sous le manteau. Enfin, on peut taper sur n'importe quel artiste de show business, de rock, etc. Les prix sont aussi chers, si ce n'est plus que l'opéra. Et après, l'opéra... qu'on ne nous dise pas qu'on ne comprend rien ou que, parce que c'est sous-titré. Maintenant, sur Internet, on peut avoir tous les opéras possibles et imaginables. Donc, je pense que c'est aujourd'hui encore plus accessible qu'avant à tout le monde. Moi, il m'arrive d'aller dans des écoles pour voir des jeunes. À Marseille, ça m'est arrivé d'ailleurs d'aller rencontrer des jeunes dans des écoles, de les inviter à venir à des répétitions, etc. Et ils sont beaucoup moins compliqués que les adultes. Ils se posent moins de questions, ils prennent, ils sont... ils jouissent tout de suite de ce qu'il y a à apprécier, que ce soit l'orchestre, que ce soit la mise en scène, que ce soit les voix, que ce soit les costumes. Ils ont plein de choses à apprécier. Et je crois qu'il y a effectivement une éducation à apporter. Mais il y a un boulot.
Dans les quartiers, lorsque j'étais jeune, les cinémas organisaient des tours de chant lorsqu'ils ne faisaient pas de projection. Et un de mes oncles a voulu aussi être chanteur. Et en fait, c'était en même temps que débutait Yves Montand. Donc, on habitait tous dans les quartiers nord de Marseille, à la Cabucelle. Et dans le cinéma, qui était juste en face, les raffineries de sucre, ils organisaient tous les dimanches des radio-crochets, enfin, les amateurs ou des amateurs éclairés venaient chanter. Donc, tout le monde, parce qu'ils connaissaient les gens du quartier, allait se rencontrer. Ça a disparu parce que les cinémas de quartier ont disparu aussi pour la plupart. Mais ces propositions existent moins.
Oui, mais il y en a d'autres qui existent. Et je me souviens, puisqu'on parle beaucoup de Marseille, d'avoir chanté le Cid à Marseille avec Roberto Alagna, et il y avait donc une captation qui était retransmise sur le Vieux-Port. Et on était étonnés lorsque nous sommes allés, il y avait un petit décalage de 10 minutes, donc nous, à la fin de l'opéra sur scène, on a pu prendre une voiture pour aller saluer le public qui était là. Il y avait près de 8000 personnes, et c'était des gens de partout, de toutes les conditions sociales, des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'opéra et qui peut-être passaient par hasard, mais qui se sont installés avec un enfant, avec un cabas, et qui ont écouté l'opéra. Donc, je pense qu'il peut y avoir un intérêt, il faut donner envie aux gens d'y aller. Et arrêter ce discours du prix, du fait qu'on ne comprenne rien ou que c'est réservé à une élite intellectuelle ou sociale. Ça, moi, c'est un discours que j'ai vraiment plus envie d'entendre parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
Les opérateurs... Pardon, excuse-moi.
Non, il faut juste expliquer, leur donner envie. Moi, de plus en plus, dans mes concerts, mes récitals, toute seule... Je parle aux gens parce que sinon il y a quelque chose de trop figé. On arrive, on chante, on part, et donc on reste cette statue inapprochable, intouchable, et donc ça n'aide pas à créer un lien, parce que les gens s'imaginent que les chanteurs d'opéra ils vivent pas comme tout le monde. Alors c'est vrai qu'on n'a pas la vie peut-être de tout le monde, mais enfin on n'est quand même pas déconnecté d'une certaine réalité du quotidien. Il faut arrêter de penser qu'on roule en Rolls, qu'on a des chauffeurs, qu'on vit dans des châteaux. C'est pas le cas. On est quand même connecté à la vie. Et d'ailleurs, moi,
vous avez complètement raison. Il faut casser ce mythe. Il faut rendre les artistes accessibles. Je veux dire, il faut que les gens puissent vous toucher, qu'ils puissent vous approcher vraiment. Facilement.
Mais bien sûr. Mais vous savez, le cinéma n'aide pas beaucoup, parce que moi je constate que chaque fois qu'il y a une référence à l'opéra dans un film, où c'est ennuyeux, où ce sont des gens très bourgeois qui écoutent, ou alors la chanteuse, comme le film Diva par exemple, elle est tout le temps en nuisette, en satin, avec ceci, avec cela, tout le temps. Je veux dire, moi, si on me voyait sur mon vélo ou dans mon jardin, sur mon tracteur, je veux dire, les gens ne vont pas imaginer. Mais il y a une image du chanteur d'opéra qui reste et qui, moi, je trouve qui est presque handicapant et qui ne va pas aider les gens à avoir envie d'aller à l'opéra.
Il y a des phénomènes comme ça, c'est vrai, il y a des phénomènes comme ça qui ont participé à éloigner un public en fait de l'opéra, alors que
complètement.
Fondamentalement, c'est des personnes qui spontanément vont aller voir par exemple Carmen sur Vieux-Port.
Mais bien sûr.
C'est un genre d'initiative qui permet aussi de sortir les artistes des murs de l'opéra et finalement de montrer au grand peuple, j'allais dire, comme sur l'agora publique, de leur montrer un art qui les touche directement. Et c'est et voilà, donc ça, c'est sûr que c'est des initiatives qui sont fondamentalement fondées sur la démocratisation aussi de cet art, mais qui est nécessaire, je pense, pour les générations futures.
Complètement.
Il y a une prise de conscience des opéras hein, qui mènent de plus en plus d'actions, justement, pour aller chercher ce qu'on appelle aujourd'hui des publics éloignés, mais en tout cas, pour essayer justement de se rendre très accessible. Il y a une prise de conscience de ça, de cette idée de justement aller chercher un nouveau public parce qu'on ne peut pas justement rester que dans l'entre-soi. Et c'est vrai ce qu'évoquait Rémi par rapport au programme Opéra Déconfiné, pour le resituer, ce que nous avons mené après le confinement, nous avons créé ce programme Opéra Déconfiné qui consistait à amener justement l'opéra dans des quartiers populaires d'Aix-en-Provence pour jouer des scènes d'opéra sous les fenêtres des habitants, dans des quartiers évidemment où la population…
Au Jas de Bouffant.
Pardon ?
Au Jas de Bouffant.
Alors, au Jas de Bouffant, à la cité Besson et à Ancagnani. C'était un programme que nous avons mené avec le Relais des Possibles, qui est un centre d'hébergement d'urgence pour femmes victimes de violences et un hôtel maternel, mais qui surtout et en plus fait de la culture un outil de rassemblement et de sensibilisation dans les quartiers contre l'isolement et de prévention contre les violences faites aux femmes. Et donc, après le confinement, l'idée était de ramener de la culture dans ces quartiers, de comment est-ce qu'on pouvait la ramener. L'opéra nous a semblé tout à fait approprié, puisque la culture, c'est quelque chose qu'on peut partager. Et là, il suffit simplement d'ouvrir sa fenêtre, parce que la voix passe, la voix rentre, la musique rentre, et chacun, depuis sa fenêtre, partage un moment ensemble et en même temps découvre et se rend compte qu'effectivement l'opéra ça parle de thèmes qui sont tout à fait modernes, très contemporains et ça parle de sentiments, les sentiments tout le monde est capable d'en ressentir, des émotions tout le monde en ressent, donc tout le monde peut avoir un accès à l'opéra. C'est ce que nous avons voulu démontrer pendant ces 14 semaines d'intervention dans ces quartiers populaires où tous les lundis nous étions de plus en plus attendus. Rémi y a participé deux fois. Une fois, il a chanté. Une autre fois, il a fait chanter les gens à leur fenêtre. Et il leur a fait chanter du Gluck, en plus. Mais comme quoi, ce n'est pas forcément toujours Carmen. L'opéra a cette accessibilité parce que ça parle de choses profondément modernes, profondément contemporaines. Et là, nous allons continuer. Nous reprenons le programme Opéra Déconfiné dès lundi prochain. Cette fois-ci, nous transformons un peu la forme puisque nous allons créer l'Opéra Carmen l'année prochaine en immersion dans les quartiers. Il va y avoir une adaptation en fait par les femmes qui sont les pensionnaires de ce relais d'hébergement d'urgence pour travailler justement sur qui est Carmen aujourd'hui, la place de la femme dans ces quartiers populaires. Et là, nous attaquons donc une série d'opéras déconfinés autour de Carmen. Et cette fois-ci, on va extraire, dans des scènes que je vais mettre en scène, extraire des thématiques sociales sur lesquelles nous allons pouvoir échanger avec la population, mais aussi avec les éducateurs spécialisés du centre d'hébergement. Puisque là, par exemple, lundi prochain, nous allons faire la scène de Morales et Michaela, qui est la première scène. Et la scène de Michaela qui arrive dans la montagne, c'est des contrebandiers, puis son air. Et puis sur ces extraits-là, nous pouvons travailler les thématiques de harcèlement de rue. Nous pouvons travailler la thématique des femmes qui ont peur de sortir de chez elles dans leur propre quartier la nuit, de la tentative de viol. Enfin voilà, on arrive à extraire et à ramener à la modernité et en échangeant avec les gens. Voilà. Et voilà à quoi sert l'opéra. En tout cas, comment nous, en tout cas, on le traite au CALMS, c'est on essaye de se servir de l'outil culturel pour le rapprocher justement des thématiques sociales et justement dans ces quartiers qui sont menés par des associations de prévention et qui font justement du présentiel dans ces quartiers-là.
Les cigarières et les cagoles qui participaient à l'emballage des dates à Marseille ont disparu. Ce sont deux métiers qui n'existent plus, mais on trouve les mêmes situations dans les grandes surfaces. Les caissières sont les cagoles du 21e siècle. Mais il y a plein d'exemples de transposition, donc d'évolution, de déplacement de ces conditions de travail où les mêmes personnes sont exploitées différemment, dans des situations différentes, mais l'exploitation et ce que vous appelez le harcèlement, mais qui est la condition des femmes. Et je crois qu'il ne faut pas non plus oublier la condition des hommes, même si les mineurs, les gens qui descendaient au fond de la mine, eux aussi sont peu nombreux, et on retrouve les mêmes conditions de travail désastreuses dans d'autres professions. Donc, ces situations qui existaient au 19e siècle, Zola les a largement racontées, elles n'ont fait que se déplacer, mais ce contre quoi luttaient les premiers grévistes, ce sont les mêmes choses qui sont l'objet de lutte aujourd'hui, à savoir la domination du capital, l'exploitation du travail du travailleur. Et donc les choses n'ont pas beaucoup changé. Le CNR avait été une proposition, un organe de proposition extraordinaire, et on se rend compte que tous les jours, des pans entiers de services sociaux sont démantelés. Et on ne voit pas, en tous les cas c'est ce que je regrette, on ne voit pas d'opposition citoyenne pour empêcher la dégradation des services publics. Je vous parlais de ce magasin McDo à Saint-Barthélemy qui fait de la distribution de paniers solidaires. C'était au tout début du confinement, au mois d'avril. Il y avait 400 personnes qui faisaient la queue et qui attendaient qu'on leur distribue un panier. Juste à côté, à 500 mètres, il y a un supermarché Carrefour. Personne, à aucun moment, n'a eu envie d'aller piller ce magasin. Personne. Donc, en même temps, j'ai l'impression que les gens sont anesthésiés, sont devenus dociles, manquent de rébellion. Mais c'est peut-être une vue de mon esprit.
Manque de rébellion, quand on a eu pendant un an, plus d'un an, les gilets jaunes, je trouve que c'est curieux ce que vous dites. Ouais. On a eu la grève des retraites. Enfin, je veux dire, en France, on ne peut pas dire qu'on manque de rébellion, quand même. C'est quand les même bien qui... inscrit en nous.
Ouais. Bon, on va... Pardon de cette diversion, mais vous avez parlé de votre activité, de votre action vers les autres, mais dont autour de vous, il y a plein d'artistes qui sont aussi dans des situations absolument catastrophiques, même si pour une partie, en tous les cas, les intermittents qui pouvaient bénéficier d'indemnités, si leur condition d'intermittent va être prolongée, il y a plein de personnes du spectacle, de travailleurs du spectacle, de travailleurs de la culture qui n'avaient pas ce statut-là et qui sont eux aussi complètement démunis. Alors la question qui est sous-jacente, c'est charité bien ordonnée commence par soi-même et vous avez commencé par les autres.
Alors on avait commencé bien avant la crise.
Oui, c'est ce que j'allais dire, on n'a pas attendu le Covid pour faire ça. Voilà. Moi, ça fait 30 ans que je chante, je suis sollicitée très, très régulièrement et j'en suis heureuse. Évidemment, je ne m'en plains pas. Après, malheureusement, on ne peut pas être partout. Alors, je me souviens d'avoir fait un concert avec Francis Cabrel à Agen, puisqu'il est du Lot-et-Garonne comme moi. Et c'était horrible parce qu'on avait fait un concert avec d'autres artistes, des pianistes, etc. Et il fallait qu'on choisisse des associations à qui donner l'argent. Et il dit, mais vous vous rendez compte, il faut qu'on choisisse le top 50 de la misère. C'était horrible. Et pourquoi à l'un, pourquoi pas à l'autre? Mais malheureusement, voilà, on est obligé de faire le choix même dans ce domaine-là. Et pour ma part, je continue beaucoup à être sollicitée, à faire des concerts pour mécénat chirurgie cardiaque, par exemple. Je suis aussi marraine d'un comité de cancérologie dans ma région. Enfin, l'association La Mouette aussi, qui vient en aide à des enfants maltraités. Bon, bref, il y a Engagé Solidaire aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font des choses merveilleuses. Et moi, je regrette de ne pas habiter à Marseille. Je le disais l'autre jour à Michael. J'aimerais bien qu'il y ait un Michael Bis dans ma région parce que je sens son énergie et j'aimerais faire beaucoup, beaucoup plus encore avec lui. Et voilà, je n'ai peut-être pas moi son énergie et je me sens un peu seule dans ma région. Pourtant, j'aimerais bien faire des choses aussi dans le Lot-et-Garonne.
C'était il y a une cinquantaine d'années, un petit peu moins, 40 ans. J'avais participé à l'organisation d'un événement qui avait été extraordinaire. C'était une soirée qui rassemblait Pierre Barbizet et Claude Bolling. Et c'était à l'Opéra de Marseille. Et ça avait été une soirée absolument extraordinaire. Et là aussi, c'était pour recueillir des fonds, pour aider je ne sais plus quelle association. Ma mémoire est défaillante. Mais oui, vous avez raison. Les artistes sont très... très ouvert et souvent très généreux et accepte assez facilement de participer à une bonne cause. Mais ma question, c'était, il y a plein de salariés, de travailleurs du spectacle qui sont dans la difficulté.
Tout à fait.
Et donc, aujourd'hui, vous vous tournez vers les autres, vers les personnes qui sont en difficulté sociale. Mais comment vous organisez la solidarité avec les autres travailleurs du spectacle, de la culture?
Pardon, vas-y, tu veux répondre, j'allais...
Non, moi, je veux... Alors, en deux secondes, il y a eu, avec ce confinement, justement, les chanteurs qui sont très solistes, très, très solitaires dans leur métier. Il y a eu une association qui s'est montée, qui est Unisson, et bientôt, le 17 octobre, il va y avoir un concert... organisé à l'Opéra Comique où il y a une cinquantaine de chanteurs, je crois même un peu plus, et les fonds vont être... Pardon ?
60 chanteurs,
et les fonds vont être justement utilisés pour venir en aide à des chanteurs dans la difficulté. Alors après, je ne sais pas comment ils vont être... comment ils vont décider de donner à un tel ou un tel, mais je veux dire, on fait... Et moi, personnellement, alors dans un autre domaine, sans parler de gens dans la difficulté, ça fait plus de 30 ans que je chante. Alors évidemment, c'est peut-être pas à Rémi qu'on va demander ça, mais moi, à mon âge aujourd'hui, je me permets parfois de faire des concerts avec des jeunes chanteurs pour que justement, c'est ce qui va se passer d'ailleurs le 13. Après, ce sont des jeunes chanteuses qui sont déjà en carrière, hein. Mais dans ce que je fais de temps en temps, je fais des concerts avec des jeunes chanteurs pour justement qu'on les entende, qu'on les découvre. Je parle d'eux à de certains directeurs de théâtre, des gens qui sont susceptibles de les entendre. Donc voilà, je fais ce que je peux aussi. Je ne suis pas directrice de théâtre, mais je fais comment ? Pour pas encore, non, chacun a sa place. Je laisse ma place volontiers.
C'est pas le même métier.
Non, c'est pas le même métier. Pourtant, ça fait longtemps qu'on me le dit. Je me souviens de Nicolas Joël qui me disait ça. Il faudrait que tu prennes la direction d'un théâtre, mais non, chacun a sa place. Et bref, donc oui, je fais ce que je peux. Voilà. Et Michael, tu voulais dire quelque chose?
Oui, pour rebondir, effectivement, il y a eu. C'est vrai que. La culture est partie des secteurs très durement touchés par cette crise sanitaire. Il y a eu beaucoup de contrats annulés pour beaucoup d'artistes, des reports. Alors, c'est vrai qu'effectivement, cette année blanche est une solution qui permet justement de sécuriser et qui a permis de sauver plusieurs milliers d'artistes sur le court terme. Mais la problématique vient de si le travail continue à ne pas pouvoir être fait, si on ne peut pas jouer. Comme là, on voit l'Opéra Comique, d'ailleurs, qui vient d'annuler toutes ses représentations du bourgeois gentilhomme, ainsi que l'Opéra de Rouen, qui vient d'annuler ses représentations de Tannhäuser parce que un soliste a été dépisté positif en étant asymptomatique. Donc, toute la production est annulée. Et on va d'annulation en annulation. Je disais à mes camarades tout à l'heure que je venais de recevoir à l'instant un mail me disant que le concert que je devais faire le 10 octobre est annulé. Voilà, aujourd'hui, on ne sait pas encore si on va pouvoir retravailler. Et alors, même si effectivement on a cette année blanche, derrière cette année blanche, qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Alors évidemment, pour des artistes qui sont en carrière depuis de longues années, qui ont fait leur place et qui ont fait leur trou dans le métier, peut-être qu'ils vont être sollicités. Mais pour tous ces jeunes artistes qui ont commencé à peine et pour qui ça s'arrête brutalement, ou tous ceux qui font des études depuis des dizaines d'années, parce que pour devenir chanteur professionnel, c'est des dizaines d'années d'études avant de pouvoir commencer. Et qui en sont à la fin de leurs études et qui voient finalement presque leur rêve, on leur dit « Ah oui, mais finalement, le métier est en train de s'arrêter là actuellement. C'est terrible pour tous ces gens qui se sont projetés et qui ont investi énormément de temps, énormément d'énergie, énormément d'années, d'argent, parce que ce sont des études extrêmement coûteuses d'apprendre à chanter. Voilà, il y a une très grosse incertitude sur l'avenir de notre métier. Et sur l'avenir de la culture en général, si on n'arrive pas effectivement à pouvoir jouer en se disant que nous sommes quand même en sécurité, le public est en sécurité quand on se retrouve dans un théâtre, quand on voit, j'en en parlais encore tout à l'heure avec Béatrice, nous avons pris le train tous les deux, moi pour rentrer de Paris, elle pour y aller hier, nous étions dans un train où il n'y avait aucune place de libre. Les gens portent un masque, mais quand ils mangent, ils l'enlèvent. Alors que dans un théâtre, alors que nous regardons un spectacle, tous dans la même direction, on nous impose une place sur deux, ce qui, en fait, n'est pas gérable financièrement pour la création, quand on veut faire de la création, pour les billetteries, puisque les théâtres vivent de subventions, mais aussi de billetteries. Et si les billetteries ne peuvent pas venir compléter le manque à gagner, les théâtres vont fermer. Voilà, mais évidemment, nous sommes des acteurs de la culture, mais le monde de la restauration est en très grande souffrance actuellement, des restaurants ferment, des magasins ferment, tout le monde des indépendants est en danger. Donc effectivement, comme Béatrice l'a dit, nous avons la force d'avoir de la visibilité encore par la culture artiste. Et c'est ainsi que ce collectif Unisson s'est créé et va pouvoir organiser ce concert afin de créer un fonds de dotation pour aider les artistes en grande précarité. Mais encore une fois, les artistes en grande précarité, aujourd'hui, nous sommes tous en train de devenir en grande précarité. Et la question, c'est comment justement ce fonds va pouvoir aider des artistes à être sauvés, alors que finalement, la seule chose qui peut sauver les artistes aujourd'hui, c'est que la culture puisse reprendre et que l'activité artistique puisse reprendre. Parce que ce n'est pas... On va pouvoir compenser pendant quelques temps en faisant un concert caritatif. Et encore, verrons-nous, est-ce que ce concert caritatif à la salle Favard va être plein? Est-ce qu'on va faire une demi-jauge? Est-ce que ça ne va pas être annulé au dernier moment? Parce que voilà, nous sommes dans une incertitude totale. Donc la seule chose sur laquelle il faut vraiment, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à reprendre une dynamique culturelle et une dynamique viable, une dynamique viable, puisque là, on travaille un mois, c'est terrible. Je pense à nos camarades du Bourgeois Gentilhomme et de Tannhäuser qui, à la veille de la Générale, se sont vus interdire de jouer et tout annuler alors qu'ils ont travaillé pendant un mois. Et d'autant plus que les contrats aujourd'hui, alors ça dépend des théâtres, mais disent qu'en cas de Covid, il n'y a aucune indemnisation. Donc, vous voyez, là, ça devient dramatique parce qu'on a travaillé pendant un mois, il n'y a pas d'indemnisation. Donc, je ne sais pas si c'est le cas pour nos camarades de l'Opéra de Paris et de l'Opéra de Rouen. Mais en tout cas, la situation, même avec des fonds de dotation, voilà, il y a une solidarité qui s'exerce dans le métier. C'est vrai, comme l'a dit Béatrice, nous sommes tous des indépendants qui nous travaillons ensemble, on se retrouve bien souvent. et nous travaillons ensemble, mais effectivement, nous sommes un groupe d'indépendants qui nous réunissons, et grâce justement à la culture, un peu comme le fait le CALMS pour mettre en lumière des luttes sociales, là, finalement, c'est les artistes qui se réunissent pour aider justement notre métier qui est en grand péril.
Et puis surtout, enfin, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvaise augure ou être hyper pessimiste, mais moi, je peux en parler mieux sur ce sujet que Michael ou Rémi, bien sûr, qui débutent. C'est que, de toute façon, même avant la crise du Covid, le métier allait très mal. C'est terrible. Moi, quand j'ai débuté il y a 30 ans, dans n'importe quel théâtre de moyenne importance où on débutait tous, que ce soit, déjà Marseille était un grand théâtre, hein, mais des théâtres comme tu viens d'évoquer, Rouen, Nantes, Nancy, Metz, Avignon, tous ces théâtres où on avait des très très belles conditions pour travailler, c'est toujours le cas, mais on avait minimum 6 spectacles. Et là, aujourd'hui, quand il y en a 3, c'est bien le maximum. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup moins d'argent qu'auparavant. Il y a beaucoup plus de chanteurs qu'auparavant. Et nous, quand moi, ça me faisait sourire quand il y a 20 ans ou 15 ans, on nous parlait du plombier polonais qui venait chez nous. Mais excusez-moi, mais les chanteurs étrangers, ça fait très, 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 très longtemps qu'ils sont là. Et évidemment, je suis pour l'ouverture, etc., tout ce que l'on veut. Je ne veux pas qu'on me prenne des propos que je ne veux pas tenir. Mais c'est quand même difficile d'accepter pour des chanteurs français de savoir que, par exemple, un théâtre qui va engager un chanteur italien, italien ou autre, en tout cas étranger, va avoir beaucoup moins de charges sociales. Donc, vu qu'ils ont moins de subventions, ben, évidemment, ils sont tentés de prendre des chanteurs étrangers. Et c'est quand même terrible pour nous. Donc, le métier, de toute façon, n'allait pas très, très bien. Et les agents se battent quand ils vont dans des pays étrangers pour proposer leurs artistes français. On leur dit, ben non, les États-Unis, on sait qu'ils exigent un quota. Ils n'ont pas peur d'employer ce mot qui, nous fait peur. Un quota de chanteurs américains, ils ont une obligation en Angleterre, en Italie, en Espagne. On dit, ben non, nous, pour tel rôle, on a ce qu'il faut chez nous, on ne prendra pas de français. Et en France, ça n'existe pas. Et ça, c'est vraiment catastrophique pour nous. Catastrophique. Enfin, moi, je pense surtout aux jeunes chanteurs, hein, parce que moi, je ne vais pas dire que, voilà, je vais dire que je suis en fin de carrière, même si j'ai encore quelques belles années, mais je ne m'inquiète pas pour moi, je m'inquiète pour les jeunes.
Tu as tout à fait raison. C'est vrai que...
Les agents qui défendent votre profession, les agents... on ne les appelle pas de la même manière, mais ça revient au même. Toutes les entreprises, et notamment les start-up qui se sont lancées dans la course à la découverte, à la mise au point d'un vaccin contre le Covid-19, ont dans leur contrat une clause qui spécifie que même si leurs recherches n'aboutissent pas, les fonds qu'ils auront reçus ne seront pas remboursés. C'est-à-dire que ces gens-là sont payés comptant, d'avance, quel que soit le travail qu'ils vont réaliser. On se trouve vraiment dans une dichotomie complète entre le monde de l'argent et puis le monde de l'art qui n'est pas du tout traité de la même manière.
Oui, et puis c'est vrai qu'on est un peu frileux, les solistes, parce qu'on ne veut pas se fâcher avec les directeurs, etc. Moi, j'ai rencontré un avocat qui m'a dit, mais avec les contrats que vous avez, vous pourriez tous être payés à 100%. Mais il faudrait se battre. Et évidemment, les chanteurs, ils se disent, mais moi, si j'attaque telle maison d'opéra, etc., je vais être blacklisté, ils ne vont plus jamais me réengager. Donc, effectivement, il y a une crainte qui existe, parce qu'on est très, très mal protégé. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Rémi.
C'est pareil dans le monde de l'écriture. Les maisons d'édition refusent que les auteurs soient accompagnés par un agent. Lorsqu'ils disent, mais moi je veux que le contrat soit établi par mon agent, mais l'auteur n'est pas retenu. Un de mes copains, qui est un auteur de polar marseillais, à un appel téléphonique d'un de ses copains qui habite en Italie il y a quelque temps, et son copain lui dit, ah, c'est chouette, ton bouquin vient d'être... je viens de lire ton bouquin. Il lui dit, mais tu l'as lu en français ? Non, je l'ai lu en italien. Gilles ne savait pas que son bouquin avait été traduit. Ce qui veut dire que les droits d'auteur lui passent complètement sous le nez. Donc on est vraiment dans un monde à réinventer, où il faut que la place des uns et des autres soit mieux équilibrée, que les richesses soient mieux réparties, que le bonheur soit pour les autres.
C'est tout un système, effectivement. Et on ne va pas taper évidemment sur les directeurs d'opéra qui font un boulot très compliqué, surtout en cette période où ils ont des budgets très serrés, beaucoup d'artistes. Certains, en tout cas à Marseille, je sais que Maurice Ibéras a payé justement, a été le premier directeur à payer tous les artistes, à les indemniser intégralement.
Complètement.
Tous toucher leur cachet, même si les représentations ont été annulées.
Saint-Étienne aussi. Dire,
hein. Les directeurs aussi font comme ils peuvent. Et effectivement, il faut se poser la question par rapport à tout un système, le fonctionnement d'un système. Mmh. Nous sommes représentés par des agents. Alors, nous avons parfois des relations plus privilégiées avec certains directeurs, mais généralement, le travail passe par les agents. Mais plutôt, quelle est la question de la place de l'artiste dans le processus de création? Ça, c'est quelque chose qui serait intéressant de poser. Aujourd'hui, est-ce que finalement, les programmations, les directions d'opéra devraient être faites en prenant en compte la position des artistes, en prenant en compte l'emploi des artistes, voilà. Mais évidemment, c'est des questions dont je n'ai pas la réponse, pour commencer, qui mériteraient évidemment un travail collégial et intense de voir comment est-ce qu'on pourrait, dans le milieu de l'opéra, retravailler sur sur le fonctionnement. Quand on parlait, évidemment, Béatrice parlait du fonctionnement aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, en Espagne, où effectivement il y a des quotas d'artistes nationaux qui ont la priorité, surtout sur les seconds, troisièmes rôles et les qu'on fasse venir de l'étranger des grandes vedettes pour occuper des premiers rôles, c'est tout à fait normal. Mais effectivement, quand par exemple un opéra français est joué comme Carmen, qui est plein de second rôles, et que ces second rôles sont joués par des artistes étrangers, alors que c'est un opéra en langue française avec des second rôles, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la pertinence artistique quand on se dit que là, c'est peut-être plutôt une pertinence financière. Et comme l'a dit Béatrice, effectivement. Maintenant,
il reste trois minutes.
Alors,
peut-être utiliser ces trois minutes pour indiquer une adresse internet, un site où vous joindre, où vous contacter.
Alors, avec plaisir. Donc, puisque nous avons Rémi avec nous et Béatrice qui vont être donc deux chanteurs de nos prochains concerts. Rémi le 11 octobre avec Luca Lombardo à Marseille pour la lutte contre le cancer et l'association Ressources.
Dans quelle salle?
Pardon?
Dans quelle salle, Rémi?
Alors, ça sera au musée du terroir marseillais. C'est d'accord, un théâtre de verdure, c'est en plein air.
En Château-Gombert.
Et Béatrice chante à Château-Gombert. Et Béatrice chantera donc le 13 décembre, elle, à l'Opéra de Marseille avec Amélie Robin, qui est une formidable soprano qui fait déjà une très jolie carrière, et Laurie Garcia, qui est une jeune mezzo-soprano qui est sortie du Conservatoire de Marseille il y a peu et qu'on a même pu entendre aux Arènes de Vérone avec Placido Domingo il y a 2 ans. Et ils seront accompagnés par l'orchestre du Conservatoire et ce sera au profit de la Croix-Rouge. Et toutes ces informations, vous pouvez les trouver, vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places sur notre site internet qui est le www.calms-france.fr. Vous pouvez donc réserver par internet ou par téléphone, tout est indiqué sur le site. Voilà, vous avez évidemment notre Facebook, Collectif des artistes lyriques et des musiciens pour la solidarité. Voilà, toute une saison
voilà,
de concerts.
Et bien voilà. Merci Mickaël.
Merci beaucoup Jean-Pierre Rendu de nous avoir invités pour parler du CALMS et de toute
merci
cette...
Rémi, merci Béatrice.
Merci à vous.
Avec plaisir.
À tout bientôt. Et cette émission sera rediffusée demain matin de 10h à 11h. Au revoir les amis.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Thank you.